La libre antenne d'Europe 1.
Et nous accueillons Vivienne. Vivienne que nous avions quittée hier soir, faute d'horaire. Bonsoir Vivienne.
Bonsoir Olivier et bonsoir à toute votre charmante petite équipe
qui
a préparé ça en amont.
La nuit a été bonne, Vivienne ?
Elle a été courte, angoissée, mais à l'idée de pouvoir m'exprimer ce soir sans jugement en face et sans filtre, m'a mis du baume au cœur. Voilà.
Je comprends parce que hier soir, à la fin de l'émission, Florian m'a montré des photos que vous lui aviez envoyées de l'état de votre propriété, en tout cas de ce qui fait partie hein, de votre environnement, de votre quotidien. Je vous avoue que j'ai particulièrement été saisi, on va dire, par l'accumulation de détritus, en tout cas de choses entassées. Mais je crois que ça ne s'arrête pas là. Vous allez nous l'expliquer ce soir, car le comportement de votre voisine est plus qu'inquiétant. Je vous écoute, Vivienne.
Les photos n'étaient que des morceaux choisis, puisqu'il y a 563 photos de la même teneur, hein, je précise. Donc c'est vraiment c'est d'une ampleur assez considérable et rarement vue. Je crois que même dans les émissions qui traitent de ce genre de sujet, là, il y a matière.
Rappelez-nous quoi souffre votre
de synogomanie, vraiment un stade extrême qui s'apparente en fait au syndrome de Diogène, où là vraiment, là apparemment ça découlerait, il y a plusieurs interprétations, mais ça découlerait de plusieurs AVC, débuts d'AVC qu'elle aurait fait, et lié à une enfance perturbée, mais l'ARS qui s'est déjà déplacé, et puis les gens qui sont proches, notamment les voisins immédiats, pensent que voilà, caractérise ça comme un syndrome de Diogène, qu'il a pris une proportion. C'est ce que vous avez vu sur les photos, c'est sur un hectare.
Sur un hectare. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que ce syndrome pour celles et ceux qui ne connaissent pas ?
C'est en fait une accumulation d'objets sans forcément de valeur intrinsèque qui sont là pour combler un vide ou pour sécuriser. Alors, c'est ce qu'elle récupère partout, c'est-à-dire ce que les gens déposent quand les encombrants vont passer, dans les enseignes de bricolage, je n'aurai pas le nom à proximité, les brocantes qu'ils mettent dans les poubelles, les cagettes des magasins de légumes, les grandes surfaces, tout, des sièges mis à la poubelle, enfin des choses qu'on ne trouve même pas ni dans les raideries, les brocantes, quoi. Et il y a un entassement, mais c'est la démesure totale, et elle vit là-dedans. Et donc, il n'y a ni eau, ni arrivée d'eau, hein, puisque c'était considéré comme un jardin constructible. Donc, normalement, elle n'est pas censée vivre là, même si la loi, apparemment, autorise de vivre sur son terrain. Enfin, là-dessus, le maire s'en accommode bien. J'en parlerai du maire après. Et sans toilette, puisqu'elle fait ses besoins dans les palettes. Il y a surtout énormément de palettes et des drapeaux complètement déchirés. Elle est issue de plusieurs pays, on ne sait pas trop pourquoi. Vivent aussi 14 chats adultes et plusieurs petits là depuis quelques jours, des conditions critiques.
Alors racontez-nous ce que vous nous avez dit hier soir. Vous nous avez vraiment bien pitché le début, mais racontez-nous à nouveau dans quelles conditions vous rentrez dans ce logement et que vous découvrez l'existence de cette dame après avoir signé le bail.
C'est pour ça, c'est surtout pour ça que j'appelais, parce que je voulais parler des situations des propriétaires et des locataires. Il y en a souvent beaucoup qui interviennent sur votre antenne récemment. Après, c'est vrai que vous n'avez qu'une parole. Moi, je vais vous dire comment je l'ai vécu, voilà, avec en étant la plus proche possible de la réalité, de ce que je vis, de ce que je subis et du dol locatif dont j'ai été victime. Autant il y a des propriétaires extrêmement sérieux, vraiment. Droit, etc. Il y a la même chose chez le locataire. Là, je suis tombée chez des gens fort peu scrupuleux. Alors, quand j'ai visité la maison, j'ai appris bien plus tard, hein, seulement cette année. Donc, j'ai visité en octobre 2018, voilà. La maison, je précise que la maison avait été mise en location sur un site très connu, déjà une première fois en octobre. Et j'ai été surprise parce que beaucoup de propriétaires ne font la même chose pour ne pas être dérangés tout le temps. Et il n'y avait pas de numéro de téléphone. On ne pouvait passer que par la messagerie du site. Donc, j'avais postulé, voilà, parce qu'il n'y avait que des photos. Mais voilà, j'avais le temps, je n'étais pas pressée où j'étais. Je n'avais pas de délai de préavis ou autre. J'étais en bon terme avec mon ancien propriétaire. L'annonce a disparu du jour au lendemain. Bon, voilà, pourquoi pas, hein, c'est la chose. Et puis, elle est réapparue 15 jours ou 3 semaines après. Voilà. Et donc, je me suis dit, peut-être que les gens se sont décidés et tout. Donc, j'ai de nouveau tenté ma chance. Et il a pris contact avec moi. Et j'ai senti tout de suite qu'il était extrêmement méfiant, etc. Et pour en arriver au fait, donc, il m'a donné des rendez-vous de visite. J'ai compris pourquoi après. Pourquoi tel jour et telle heure. Pour qu'on ne croise personne et pas qu'on croise de gens dans la rue. Et surtout pas la personne qui vivait derrière. Donc, ils m'ont masqué la présence jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus le nier, en fait. Mais c'était déjà trop tard. Voilà, donc quand ils m'ont fait visiter, j'ai bien posé la question. J'avais une personne avec moi, qui est aussi mon garant témoin. Il l'a bien dit, il a bien précisé que devant, ça lui appartenait. Un chemin qui est une servitude, après coup, ça ne peut pas lui appartenir. Voilà, la petite maison, la courette derrière et un bâtiment qui s'écroulait derrière avec le morceau de terrain. Et la partie en contrebas, que l'on voit en contre-plongée depuis la maison, on ne voyait pas l'ampleur de ce qu'il y a maintenant. Parce que le bâtiment masquait la quasi-totalité. Je lui ai quand même posé la question, voyant quelques palettes et drapeaux. C'était que la face immergée de l'iceberg. Et il m'a dit, oh non, non, c'était une petite vieille, je ne sais pas trop qui c'est. Bon, elle vit un peu l'été, enfin voilà, je ne savais pas trop.
En tout cas, il vous ment d'emblée.
Ah oui, dès la visite, il me ment. Puisque je lui ai demandé aussi, moi j'étais là, je lui ai bien dit, sans prétention aucune, je peux acheter, voilà. C'était pas mon projet de vie pour le moment. Voilà, j'ai d'autres projets. Je lui ai dit, je vais être là pour 2-3 ans, je ne sais pas, parce que je continue de travailler. Je suis enseignante à plein temps dans un lycée très, très difficile. Et je voulais faire un équivalent en Master 2 pour pouvoir faire une thèse de doctorat, parce que j'avais un responsable de thèse. Et c'est un de mes projets de vie que je n'ai pas pu faire avant. Et je me suis dit, je vais le réaliser maintenant. Et je me suis dit qu'à la suite de ça, je serais susceptible d'avoir peut-être un autre poste, dans quel cas je quitterais la région, ou alors si je reste là, j'achèterais. Voilà. Donc j'avais été claire dès que je les ai rencontrés, enfin au téléphone avant de le rencontrer. Et puis il m'a dit oui, pas de problème, etc. Et j'ai d'ailleurs demandé si c'était pas le calme monacal, mais si c'était calme à côté. Il m'a dit oui, à côté c'est un médecin, telle personne. Hein, parce que le cabinet est proche de mon établissement et la maison qui est juste très proche à 1 mètre, il me dit oui, je les connais bien, c'est un couple avec un jeune enfant. J'apprendrai seulement le jour de leur mise des clés qu'il s'agit de lui. Ça montre déjà l'honnêteté du personnage.
Oui. Voilà.
Et donc voilà, j'ai bien précisé devant ce qui faisait partie du terrain. Dans l'annonce, c'est écrit 67 mètres carrés et 100 mètres carrés de terrain. Et je lui dis donc qu'il s'agit bien de la petite cour devant, la petite maison et ce qu'il y a derrière, dans la clôture. Le bâtiment derrière, la parcelle lui appartenant, n'en faisant pas partie. Et là, il me répond avec tellement d'assurance et de mensonges, bien évidemment. Ah, mais évidemment, il me dit sinon, il n'y a pas les 100 mètres carrés. Déjà, ils n'y sont pas les 100 mètres carrés. Et à l'intérieur, il manque 8 mètres carrés de surface habitable aussi. Voilà. Et puis, et finalement, donc, ça a duré comme ça. Donc, le bail a été signé. J'ai signalé hier le problème de la double boîte aux lettres. Ça m'a interpellée parce que je lui ai dit que je commandais énormément d'ouvrages, j'avais beaucoup de colis et qu'il y avait deux boîtes aux lettres et que s'il me choisissait, il faudrait enlever celle qui ne sert pas. Et j'ai vu qu'il avait réagi, il a dit « Oui, vous inquiétez pas, je l'enlèverai plus tard, c'est l'ancienne boîte aux lettres. » De toute façon, la factrice, en donnant son prénom, elle sait. Et j'aurais dû me dire « Elle sait quoi ?» Elle savait la vérité qu'en fait, c'est la boîte aux lettres de quelqu'un qui habitait bien derrière. Et donc, sur la boîte aux lettres, c'est une vieille boîte aux lettres, il n'y avait pas de nom. La dame, enfin le personnage qui vit derrière, a été hospitalisé longtemps. Et donc, elle n'a pas vécu là pendant un certain temps. Il en a profité pour terminer les travaux, etc. Et je crois qu'il a tout fait pour la mettre en location avant que le personnage ne rentre de l'hôpital. Voilà.
D'accord.
Et découvre, voilà, et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai appris cette année pourquoi, une première fois, l'annonce avait été enlevée. Il m'avait dit, oui, j'avais eu quelqu'un, et puis finalement, les gens se sont désistés. Non, non, une fois, j'ai réussi quand même à avoir quelquefois un contact avec elle. Elle m'a dit, mais pas du tout, elle m'a montré le document. Elle m'a dit, quand j'ai vu que c'était en location, j'ai fait exprès, elle met des grands panneaux devant, la devanture. Bon, je vais employer ces termes, pour lui pourrir sa location. Parce qu'en fait, j'apprendrai seulement bien plus tard aussi qu'elle est l'ancienne propriétaire de la maison que j'occupe. Donc, elle vit derrière sur la parcelle immense qu'elle n'a pas vendue. Et donc, pour quelqu'un qu'il ne connaît pas, il la connaît très bien puisqu'il a acheté sa maison. Elle était menacée de saisie par le fisc. Elle ne payait pas ses impôts. Malgré ses moyens, c'est une dame qui avait beaucoup de moyens, qui avait une très belle situation auparavant. Et donc, il lui a acheté la maison parce qu'elle joue que c'était la sienne pour en faire une location. Voilà l'ampleur du personnage. Donc, derrière, je suis derrière une personne malade, extrêmement violente. Et à côté, j'ai des gens que je qualifie, pardon du terme, ça paraît fort, entre les Thénardier et les marchands de sommeil.
D'accord, voilà. Oui, qui sont donc, des escrocs quand même. Qui sont des escrocs.
Oui, oui, ouais. Voilà, je suis ravie de entendre le mot, je ne vais pas. C'est-à-dire, quand on part sur le mensonge d'emblée, moi, quand il m'a demandé un dossier, j'ai donné tous les documents en transparence, comme je l'ai fait lors des autres visites. Parce que je pense que c'est le jeu. Si on veut avoir une chance et si on veut être clair avec les gens, j'ai donné des quittances. C'est quelqu'un quand même qui m'a demandé 10 mois de fiche de paie à voir. On m'avait demandé, j'aimais ça. D'autant plus que je suis fonctionnaire d'État, donc peu importe, ce n'est pas la question. Donc je lui ai dit, il m'a demandé un garant, on n'avait jamais demandé pourquoi pas, il voulait un garant. Je comprends maintenant pourquoi. Je comprends maintenant pourquoi.
Pourquoi ? Voilà. Pourquoi vous avez demandé un garant ?
Je vais vous le dire juste à la fin de l'histoire, vous allez comprendre.
D'accord.
Alors, donc voilà, j'ai rapidement, je vous avais dit hier qu'il a interdit de faire une contre-visite le samedi, au prétexte qu'il travaillait, et qu'il avait tellement de dossiers qu'il en avait assez, il arrêtait les visites qu'il s'attribuait déjà le dimanche. J'ai fait la visite le jeudi soir. Et donc, il m'avait averti par téléphone, par mail. J'étais surprise, le fait qu'il ne prenne pas la peine de m'appeler tout de même. Et qui m'a demandé de m'envoyer les papiers du garant par voie de mail et non pas directement main propre.
Oui, bah on s'aperçoit dans votre histoire, Viviane, que finalement, plus c'est gros, et c'est là l'une des cordes, l'un des talents des gens qui n'ont aucun sentiment par rapport au fait d'arnaquer les autres, plus c'est gros. Plus ça passe finalement. On va marquer une pause, si vous voulez bien, et puis on se retrouve dans quelques secondes, d'accord ?
D'accord.
Oui. À tout de suite.
Merci.
Il est 22h47, vous êtes sur votre radio. Bienvenue chez vous si vous nous rejoignez maintenant, car c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez bien évidemment envoyer vos SMS au 739-21, suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace pour que nous puissions les lire à l'antenne, vos commentaires sur le témoignage de Viviane, vos questions aussi. Comme Jocelyn sur Facebook, Viviane qui... vous demande d'abord dans un premier temps pourquoi aujourd'hui vous ne déménagez pas, mais bon, je pense que vous allez nous répondre à cela un peu plus tard. Mais pourquoi finalement avoir accepté au final cette location alors qu'on sent quand même que vous ne le sentiez pas vraiment au début, vous sentiez qu'il y avait comme quelque chose dans l'air sans savoir vraiment quoi.
En fait, c'est la seule maison qui offrait un extérieur avec une vue. Enfin, derrière, c'est un paysage désertionnage avec des arbres, etc. Et puis, c'est un couple qui a la quarantaine. Ils m'ont dit, vous savez, c'est notre première location. J'ai mis ça sur le compte de l'angoisse à l'idée de louer une première fois. Mais, et pour cause, la maison était libre depuis 4 ans. Et je leur ai dit, vous savez, je suis quelqu'un de calme, je suis là pour travailler, pour mon projet, j'ai expliqué. Ils m'ont dit, ah oui, nounou, il n'y a pas de problème, c'est notre première location, etc. Dès lors que la personne derrière, on est tout de suite pris au déménageur dès que j'ai eu les clés, et je suis allée les voir, je lui ai demandé de venir puisqu'il habite à côté. Je lui ai dit, vous savez, j'ai assez mal apprécié le fait que vous n'ayez pas dit que vous habitiez à côté. Il m'a dit, et alors, ça ne change rien. Il m'a dit, comme ça, c'est pratique, s'il y a un petit problème de réparation, je suis juste à côté.
Bon, donc, vous rentrez donc dans cette maison.
Oui. Et régulièrement, et donc tout de suite, la personne qui vit derrière a été extrêmement véhémente et agressive. En fait, j'ai eu les clés le 15, j'ai terminé mon déménagement. D'ailleurs, le nouveau propriétaire me demandait expressément, c'est une des premières questions, il m'a dit, quand est-ce que vous rendez les clés de l'autre côté ? Quand est-ce que vous rendez les clés de l'autre côté ? Et je lui avais dit le 4 décembre. Il m'a dit, ah, vivement, vous serez tranquille. J'ai compris que... Il avait peur que si jamais je m'aperçoive vraiment de l'ampleur de la situation, je tente de faire marche arrière. Ce que j'aurais pu faire. Et voilà. Et quand je lui ai dit, mais non, ça va, finalement, je rends le 4. Ah, j'ai vu, j'ai compris après que, en fait, il s'est dit, ça y est, elle est piégée. Et j'ai essayé de composer avec le personnage. Il m'a dit surtout, vous ne lui parlez pas. Donc je lui ai dit, il y a quelqu'un derrière. Vous m'avez dit qu'il n'y avait personne. Il m'a dit, c'est la dame qui vient un peu l'été. Mais elle vient passer l'été là. Mais vous inquiétez pas, les gendarmes sont venus. Dans 10 jours, elle doit être partie. Et puis j'y apprendrai rapidement. Un matin où elle m'agressait très tôt, elle ne me connaissait pas, par la voisine d'à côté qui est médecin, que non, pas du tout. Elle me dit, elle ne partira jamais, madame. Elle vit là depuis 1987 où elle est propriétaire du terrain.
Ah oui.
Et elle a vendu la parcelle qui est là et la maison, c'est l'ancienne propriétaire de la maison que vous occupez. Je suppose qu'ils ont oublié, ils ont omis de vous le dire. J'ai compris que j'étais piégée. Et j'ai essayé de composer avec, donc il m'a dit, vous ne vous en occupez pas, vous savez, il y a plein de procédures, un arrêté municipal, parce que c'était déjà comme ça, mais pas comme dans l'ampleur, vous avez vu dans les photos, et depuis les photos, c'est encore pire. Et donc voilà, j'ai composé avec, moi je travaille, on avait la réforme, j'avais mon projet à côté, donc j'avais mis des choses de côté pour, en plus un déménagement travaillant c'est éprouvant à un certain moment, et pour pouvoir vivre mes projets. Je me suis dit, bon, je vais mettre de côté, je vais faire avec, et je ne peux pas financièrement redéménager maintenant, donc je vais voir comment ça va se dérouler, et je vais faire mon travail, garder mon temps, me concentrer sur mon projet, ça demande beaucoup de temps, de travail et d'énergie. Et puis, rapidement, la situation a dégénéré, puisque j'ai commencé à y vivre entre le 1er et le 4. Moins de 3 semaines plus tard, elle me fonçait dessus avec sa voiture.
Ah oui, parce qu'elle a une voiture en plus.
Ah oui, elle a 70 ans, elle conduit, donc la moitié du temps sans assurance. Enfin, c'est une voiture dans un état, bref, comme le reste.
Ouais.
Et oui, elle conduit, elle ne fait que ça, les allers-retours, elle est à la retraite. Je ne donnerai pas plus de précisions parce que, ni bien évidemment les noms, mais c'est une personne qui avait, j'ai appris après, une excellente situation, puisqu'elle était la première femme en France responsable du fret en 79 à la SNCF. Donc je sais aussi qu'elle a une retraite qui avoisine les 4000 euros. Donc, elle pourrait absolument vivre ailleurs. Et donc, après, bon, je pense que...
Et vous dites que donc, c'est suite à un AVC que tout ça, en fait,
s'est
passé.
Oui, elle a eu des troubles. Oui, il y a eu... Enfin, certains voisins en face m'ont dit, je ne sais pas trop, ils m'ont dit, vous savez, elle buvait avant, etc. Il y a beaucoup de gens qui habitaient là depuis longtemps. Après, il faut en prendre un dossier. Je n'ai pas cherché à rentrer plus parce que déjà, ça m'envahissait dans ma vie et dans ma tête, dans mon sommeil. Et donc, dès le début, elle a vu que j'étais une femme qui vivait seule. Et pour elle, dans sa tête, je prenais sa maison. Parce qu'elle n'a jamais fait le deuil de sa maison, même encore maintenant. Ce qu'elle veut, c'est qu'à défaut de ne pouvoir la récupérer, elle veut que personne ne l'occupe. Parce qu'elle l'a construite de ses mains. J'ai appris tout ça ces derniers mois. Je ne pouvais pas savoir tout ça.
Non, et vous n'êtes pas fautive. Vous n'êtes pas fautive de tout ça. Alors, l'attitude de cette dame, puisqu'elle est au cœur de vos angoisses, que se passe-t-il avec elle au quotidien ?
Il y a eu des moments d'accalmie, et des moments où j'ai essayé d'avoir un contact avec elle. Je l'ai même nourri ses chats, parce qu'à un moment donné, ils ont coupé sa pension. Et puis, il n'y a rien à espérer. C'est une personne qui est malade, vraiment malade et d'une violence. Ouais. Pardonnez-moi de la comparaison, mais je n'ai pas trouvé mieux. Elle me fait penser à Kathy Bates, le rôle qui est l'interprète dans le personnage du film Misery, vous savez, où elle poursuit dans une folie et d'une violence assez effrayante un auteur qu'elle séquestre chez elle. Ça me fait penser à ce genre de personnage.
D'accord.
D'ailleurs, le policier qui sont venus était assez d'accord avec ce parallèle. Et, sauf que je suis la première victime et que je n'étais pour rien sur le mensonge de mes propriétaires. Et quand je les ai mis devant le fait accompli, ils m'ont dit « Oh non, ne vous inquiétez pas, ça va aller, on fait des procédures, etc. » Mais voilà, ils étaient pris dans leur mensonge. Donc, ils ont essayé, entre guillemets, de toujours m'avoir sur leur coupe. Et la situation s'est dégradée en janvier, quelques mois plus tard. Je précise que là où je vis, je n'ouvre jamais les fenêtres. Il y a 6 fenêtres, il y a 4 fenêtres qui n'ont jamais, jamais été ouvertes.
Et pourquoi ?
Je vis dans le noir, cloîtré.
Pourquoi ?
Parce que, elle est obligée de passer près de mes fenêtres pour rentrer chez elle.
Voilà.
Et elle est malade, c'est-à-dire elle filme tout ce que je fais. Elle me prend en photo. Une fois j'ai ouvert, elle me prenait en photo, elle me filmait chez moi. La police me moult fois. Ils savent que dans sa tablette, il y a des centaines de photos de moi. C'est une obsession. Mmh. Elle me suit partout, elle me suit en allant au travail. Enfin, c'est maladie, c'en est même dangereux, ce genre de personnage. Et donc voilà. Donc,
vous m'avez dit hier qu'elle était armée.
Oui, elle est armée. Alors donc les choses se sont dégradées. En avril de l'année dernière, la police était là tous les samedis, tous les dimanches. Elle s'en prenait aux voisins. Elle me réveillait à 5h30 du matin, autoradio à fond. Elle a essayé d'empoisonner mon chat. Enfin, c'est un cauchemar.
L'enfer.
C'était l'enfer. J'ai Je suis solide. J'ai vécu des choses assez dures dans la vie, quelque chose d'extrêmement grave. Je suis solide, mais c'est un travail de sape. Vous savez, c'est insidieux. Ça vous atteint dans votre sommeil, dans votre santé. Tout se dégrade, tout se dégrade. Un point tel que je n'ai plus reçu personne chez moi, aucun ami proche, rien, depuis août 2019. Ça a fait un an cette année. J'ai passé Noël toute seule, Nouvel An toute seule, la fête des mères toute seule. Même les livreurs viennent, je suis obligée de demander que ce soit un homme qui vienne livrer les colis. Ils y viennent à reculons, c'est pour vous dire.
Mais pourquoi passer Noël toute seule et toutes ces fêtes toute seule? Parce que vous n'osez plus sortir de chez vous?
Je ne peux plus inviter personne. La moindre personne se fait agresser, se fait insulter. Elle a poursuivi mon garant qui a 73 ans. Elle l'a bloqué avec sa voiture. Il ne veut plus venir là, alors que c'est un homme pourtant. Il y a ce fait-là. Et sur le fait de la boîte aux lettres, évidemment, rapidement, elle a mis un nom sur sa boîte aux lettres avec un numéro, qui est le numéro qui m'a été attribué sur le bail par les propriétaires. Donc quand je lui ai dit, écoutez, vous faites ce qu'il faut. Moi, j'ai signé un bail, c'est mon numéro, elle a mon adresse postale, la factrice lui met tous mes colis, c'est problématique.
Mais vous n'avez aucun moyen de dénoncer ce bail, Viviane ?
Je l'ai fait. Alors, je l'ai fait par moult moyens. Je me suis rapprochée de la mairie, où le maire, honnêtement, on s'en lave les mains parce que la personne est là depuis très longtemps. Voilà. Et puis, je l'ai fait auprès de... J'ai commencé à faire les procédures en avril, où là, vraiment, elle est devenue véhémente, c'est-à-dire qu'elle me prenait en photo, elle me poursuivait. J'ai eu des menaces de mort réitérées, menaces de mort avec un couteau. Un matin, elle était devant, dans la bande qui lui appartient. Je ne savais pas, je ne l'apprendrai qu'en juin, que la bande lui appartient. Elle était devant à 8h du matin, dimanche matin, et exhibition sexuelle, elle me tenait des propos, mais que je ne dirais pas l'antenne, mais dont la teneur dépasse l'entendement.
Non, mais on peut oui. Comprendre, en tout cas, on peut entendre totalement ce que vous dites, mais ce qui est très étonnant dans tout cela, c'est que, bien évidemment, vous soyez la victime de cette situation, mais que la place de cette dame n'est pas là, chez elle, dans cet endroit insalubre. C'est très étonnant de voir que ni le maire, ni le préfet, ni la gendarmerie, puisque vous êtes en campagne, donc c'est la gendarmerie qui se déplace.
Non, c'est la police. Chez nous, c'est la police nationale.
D'accord.
Il y a la police municipale de Rivry, parce que ça se passe à Rivry, à côté d'Amiens, je vais le dire. Et puis, de toute façon, toute la commune connaît la situation parce qu'ils passent devant. Hein. C'est quand même quelque chose d'assez rare. Ce que vous voyez sur les photos, il y a des gens qui s'arrêtent pour prendre en photo. Hein.
Voilà, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, imaginez vraiment un très beau coin de campagne avec vraiment avec tout ce que ça peut avoir de charmant, de pittoresque aussi, parce que c'est vraiment presque une carte postale qui est totalement recouvert de, oui, pas de détritus, j'ai dit de détritus tout à l'heure, mais non, recouvert de machines à laver, de cartons, de palettes, d'appareils électroménagers, tout un tas de choses qui font que d'un seul coup, vous avez l'impression de passer devant la déchetterie du village, en fait.
C'est ça. Il y a des rats aussi, je précise aussi.
Ouais.
Le maire, j'ai su après que plusieurs riverains avaient fait une procédure auprès du maire. Monsieur le maire, vient voir, il a fait un arrêté municipal, elle avait tant de temps pour nettoyer le terrain et ceci et cela. Donc il connaît bien le personnage apparemment.
Mais si vous voulez, Viviane, on va continuer à évoquer cette situation. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de messages au 739-21 qui s'interrogent sur le rôle non joué par le maire de cette commune et par le préfet de ce département, car même vis-à-vis de cette dame, ça n'est pas normal ni sérieux de la laisser vivre dans de telles conditions. On va laisser passer l'info sur Europe 1, si vous le voulez bien, et on continue de vous écouter après. À tout de suite. – 23h passées de 5 minutes, si vous nous rejoignez juste maintenant, sachez que vous êtes bien arrivé sur votre station sur Europe 1 et que c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Il nous reste plus d'1h55 à passer ensemble, chers amis, donc n'hésitez pas, vous pouvez nous joindre au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou comme ce soir… nombreux encore, vous êtes à nous envoyer des SMS sur le témoignage de Viviane, mais aussi par rapport au message que je vous ai fait passer hier soir de manière assez courte sur ce phénomène de mutilation et de meurtre de chevaux, de poneys. Ce que j'entendais hier soir, vous dire, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui sait dans ce type d'histoire et qui ne dit rien pour de multiples raisons, souvent par peur d'être accusé par la police en prenant part à un témoignage. Donc sachez que vous pouvez témoigner de manière anonyme auprès des services de police, auprès de la gendarmerie, parce qu'il y a toujours dans ce type d'individus qui commettent ces horreurs des vantards, en tout cas des gens qui parlent. Et je ne veux pas croire ce soir que certains d'entre vous qui nous écoutent aux quatre coins de la France ne savent rien. Donc il faut vraiment mettre fin à tout ça parce que c'est quelque chose qui nous rabaisse en tant qu'hommes et femmes. On a Viviane ce soir qui nous parle donc de ce cauchemar qu'elle vit après avoir pris cette maison pourtant si jolie. Viviane, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices se posent aussi la question sur le fait que vous n'avez pas vu d'emblée, parce que comme les photos sont assez impressionnantes, vous n'avez pas vu ça le jour où vous avez fait la première visite ?
Non, parce que derrière la maison, il y avait un immense bâtiment gris qui était un hangar en voie d'effondrement, en fait. Et en fait, il devait être, comme il claquait, et puis en fait, il a été détruit par arrêté d'ailleurs. Il l'a maintenu jusqu'à ce qu'il puisse louer pour ne pas qu'on voit derrière. On voyait juste, parce que de la maison, c'est en contrebas, il n'y avait pas tout ce que vous voyez sur les photos, il y a juste les drapeaux arrachés et quelques morceaux de palette. Et c'est là que je l'ai interpellé, enfin, pour la troisième fois. Les deux premières fois, elle a esquivé la question, me faisant mine de ne pas entendre. Et la troisième fois, j'ai vu quelqu'un remonter sur un scooter, enfin, monsieur âgé, et je lui dis, mais il y a bien quelqu'un qui vit là, il y a quelqu'un là, c'est à qui ça, voilà, à qui est ça. Il me dit, oh non, mais ça c'est quelques palettes, il me dit, c'est une petite vieille, elle vient pelleter, il me détruque là, il vient un pelleter, il me dit, sinon il n'y a personne, hein. L'hiver il ne vient strictement personne. Il me dit, vous savez, ici c'est des jardins constructibles, des ortillons, donc il ne peut y avoir personne. Il me dit, vous ne connaissez pas ici? Je lui dis non, bien évidemment que je ne pouvais que croire en sa bonne foi.
Et la deuxième question qui revient beaucoup sur notre 739-21, nos auditeurs se demandent pourquoi vous ne déménagez pas, en fait.
Oui, alors je vais y venir. Je vais essayer d'aller à l'essentiel parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pour ne pas noyer toute l'émission. Concernant cette personne, les faits se sont dégradés dès l'été dernier. La police nationale est venue 11 fois pour des situations parfois d'extrême urgence. Ou un jour, elle est venue avec un de ses amis. Enfin, c'est un personnage du même genre qui vient régulièrement. Il est encore venu aujourd'hui, d'ailleurs. Ils ont entouré la maison de paille pour la brûler. J'ai dû appeler la police nationale, ils ont fait le constat, etc. Donc je suis allée déposer plainte, etc. Et puis je me souviens que l'année dernière, la police nationale a été appelée où est venue le 14 juillet, le 17 juillet, le 22 juillet, le 24 juillet, le 25 juillet, le 29 juillet, etc. etc. Le 25 juillet, le jour de la canicule l'année dernière, j'étais au téléphone avec la capitaine de police du bureau des plaintes qui me disait, écoutez, c'est pas possible, c'est un enfer. Donc vous venez lundi et puis on va tout mettre, tout ce qui se passe depuis le début, une très longue plainte. D'ailleurs, ça a duré 3h10 la plainte pour enregistrer tous les événements, créer les photos, etc. Et elle me dit, on va dresser ça directement au parquet pour que là, ça bouge. Et j'entends les pompiers, c'est toujours de la canicule, et je lui dis, excusez-moi, il y a les pompiers devant, donc elle me dit, bonjour, accroche, et elle me dit, allez voir. Et là, j'ai les pompiers qui ont explosé mon store de salle de bain et mon portail. Et ben c'est elle derrière qui les avait appelés. Elle disait, elle ne donne pas signe de vie, j'ai peur qu'elle se soit sentie mal chez elle. Donc je connais le responsable des pompiers qui est intervenu parce qu'il forme mes élèves, hein, moi j'ai les métiers de la sécurité. Et donc il m'a dit, ben c'est bon, donc je lui ai expliqué la situation. Elle les avait appelés pour le simple plaisir, pour me nuire, en fait, pour qu'ils éclatent le store et le portail, parce que sans portail, je ne pouvais plus partir de chez moi, si tant est que je puisse partir. Donc là, ils n'ont vraiment pas apprécié, Ils ont dit qu'ils allaient lui facturer, etc. Donc, après la rentrée reprise, donc je n'étais pas là deux journées, je restais le plus longtemps possible à mon travail, j'ai fait un maximum d'heures pour mettre de l'argent de côté. Et là, je me suis dit, tant pis, je savais que mon projet de master 2, de thèse, tout était par terre, je ne pouvais plus me concentrer, j'avais du mal à faire mes cours, à tenir où je suis, parce que j'adore mon métier et que ça demande beaucoup d'énergie. Quand on est là-bas, on y est à 100%. Et j'avais l'angoisse de rentrer, me dire qu'est-ce qu'elle m'a fait, etc. Ça s'est un petit peu calmé parce que la police l'a convoquée plusieurs fois. Ils sont venus la chercher, ils l'ont mis en garde à vue. Hein. Elle se roulait par terre et s'était assise pour la traîner, hein, je vous assure. C'est authentique. Et puis la situation s'est de nouveau dégradée cette année où ça a pris des proportions. où en fait elle voulait que elle voulait absolument se procurer ma carte d'identité. Bon, et puis je pense que les plaintes, peut-être qu'il y a des choses qui ont bougé, je ne sais pas. Je n'ai jamais de retour puisque je n'ai pas de boîte aux lettres. Donc elle a enlevé ma boîte aux lettres, elle a fait installer son numéro et les propriétaires à côté m'ont fait attribuer par le maire sans me concerner un nouveau numéro qui n'est pas l'adresse du bail signé. Voilà. Et elle, elle a fini carrément pour arracher la boîte aux lettres. Donc ça s'est passé, les choses se sont dégradées depuis mai cette année, vraiment à une vitesse vertigineuse, où je suis rentrée juste après le confinement. Je ne vous raconte pas le confinement, je n'ai pas monopolisé l'antenne. Le confinement a été, je ne sais pas à quoi ressemble la prison, mais ça devait s'en approcher. Je ne pouvais pas sortir, j'étais bloquée là, avec la vue sur ce que vous voyez derrière, sur les photos. Avec les chats qui rentraient, la chaleur, les odeurs d'urine de chat, puisqu'il y a maintenant plus de 10 chats.
Il a fait très chaud pendant le confinement.
C'était atroce. Je ne voyais personne. Enfin, c'était j'étais au bout du monde, là. Et après le confinement, une des premières fois où je suis ressortie pour aller m'absenter une heure à côté, je suis rentrée, la voisine, un peu plus loin, elle m'envoie un texto et elle me dit vite, il se passe quelque chose devant chez vous, etc. Je rentre, elle avait arraché la boîte aux lettres. Le surlendemain, elle avait tagué mon portail, c'est ce que vous voyez d'ailleurs.
J'ai vu les charmants tags qu'elle vous fait sur votre boîte aux lettres aussi.
Voilà, c'est ça. La situation dégénérait ce soir-là, où là, je suis rentrée mais complètement secouée, vraiment. Là, je me suis effondrée. Je me suis assise sur les marches, j'ai appelé mon meilleur ami, je lui raconte. Il commençait à faire nuit, j'étais dehors, voilà, parce que c'est le seul moment où j'ai un peu de paix, à 22h quand il fait chaud. Et j'ai entendu marcher derrière, et je lui dis, il y a quelqu'un qui marche derrière, etc. J'ai essayé d'ouvrir le portail, elle était derrière, je vous assure. Et la police a encore vérifié il y a 2 jours, elle était là, la brique. Elle m'a jeté 2 énormes briques. La première, je l'ai esquivée, j'ai fait la prendre dans la tête. La deuxième, je l'ai reçue sur la jambe. Ma jambe a saigné, ma cheville a enflé d'un coup. Et donc, j'ai repris mon téléphone, j'étais complètement hors de moi, ça se ressent d'ailleurs là quand je vous en parle, et je leur ai raconté à mon ami au téléphone, il m'a dit appelle police secours. Donc j'ai appelé police secours, avant que je reprenne le téléphone, j'ai ramassé la première, vous voyez que je ne le cache pas, je boitais, je me suis rendu compte que je saignais après, je l'ai poursuivi sur 3-4 mètres, et puis je lui ai rejeté. Et donc il y a eu un grand splash, la police m'apprendra quelques minutes plus tard que c'était son pare-brise de voiture, ben tant pis, voilà. Et donc j'ai voulu revenir vers mon portail et m'enfermer. Et là j'ai entendu un cliquetis, enfin un bruit. Je me suis retournée et elle m'a dit bon pardon pour les termes. Elle m'a dit je vais te buter salope. Je me suis retournée, elle m'a mis pardon. Je suis encore secouée de vous en parler. Elle m'a mis en joue au fusil. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça fait sur une personne quand on joue à 3 km au fusil. Depuis ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est cassé à l'intérieur.
Ouais, ouais.
J'ai eu du mal à me concentrer, ça me revient la nuit, etc. Je ne sais pas, je crois que c'est l'instinct de survie. Je me suis jetée, pourtant, j'ai enseigné, je me suis jetée sur mon portail, j'ai refermé. J'ai saisi mon téléphone, je dis à mon meilleur ami, il me dit « appelle police secours ». Donc j'ai appelé police secours, je ne savais pas s'il allait venir. J'ai dit à l'INARM, elle m'a mis en joue. Donc là, ils ont débarqué à je ne sais pas combien. On avait huit dans ma cour, et c'était 8 ou 12 apparemment. Hein. Je sais que c'était très nombreux. Donc ils ont essayé de rentrer dans le terrain pour voir s'il y avait l'arme. Elle a juré qu'elle n'en avait pas. Déjà, il faudrait la trouver, hein, vu l'immensité de la déchetterie.
Oui.
Donc, au moins, ils sont restés près de moi. Ils ont vu ma jambe. C'est là qu'elle m'a dit « Vous saignez à la jambe, etc. On va appeler les pompiers. » Et après, j'ai dit que j'avais peur. Je lui ai dit « Écoutez, ne partez pas sans le fusil. Si vous devez revenir, elle va me tuer. Elle peut me descendre. » Et puis, donc, il m'a dit, vu l'heure, on ne peut pas rentrer comme ça, madame, même si c'est un terrain et un portail. Et donc, on ne peut pas rentrer, il faut, je ne sais plus quel document, une commission, je ne sais pas quoi. Et il me dit, au-delà de 22h30, on ne peut pas rentrer. Et donc, ils m'ont proposé de partir à l'hôpital parce que j'ai pensé après que c'était pour eux une façon de me sentir en sécurité à l'hôpital. Et je n'ai pas voulu, j'ai dit, je ne laisse pas ma maison, j'ai mon chat, etc. Je dis, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, j'ai mon SST, j'ai fait mes soins. Donc, j'ai vu le médecin le lendemain, il a fait ce qu'il fallait pour la cheville. J'ai boité quelques jours. Le lendemain matin, elle ne s'est pas démontée. Je n'ai quasiment pas dormi. Le lendemain matin, elle m'a amené des gens qui vivent comme elle. Voilà. Et j'entendais derrière le bruit, elle a dit, regarde, elle montrait le tag sur le portail. Et puis, elle disait, t'as vu ça? Si elle s'en va d'ici, je lui tague toute la baraque. Donc je notais tout, hein, je note tout depuis un an, je note tout ce qui se passe, etc.
Oui.
Voilà, bon, je vais aller plus rapidement. Et le lundi matin, j'ai entendu du bruit, j'ai voulu voir mon portail. Elle m'avait bloqué chez moi avec une barre à mine. Donc j'ai dû secouer le portail, j'ai hurlé. Une voisine m'a entendu hurler au secours, ils ont appelé la police pour venir me délivrer. Donc ça a été que ça depuis. Donc j'ai fait des plaintes là directement auprès du procureur de la République d'Amiens, qui a quand même la réputation d'être un homme de l'excellence et d'une grande intégrité. Voilà, et dans l'espoir que là, ça bouge enfin, il semblerait que les choses commencent à bouger. Mais voilà, est-ce qu'on attend, voilà, que je me fasse trouer la peau ?
Alors, voilà. Viviane, il y a au moins une trentaine de SMS qui sont tombés depuis que nous avons repris après l'information.
Oui.
Pourquoi ne déménagez-vous pas ? Parce que vous vivez l'enfer et vous êtes en
oui,
danger.
Oui, tout à fait.
Il y a quand même plusieurs situations critiques qui ont été vécues. Et le maire de votre commune, qui est normalement le premier officier de police judiciaire, hein, et qui peut prendre des décisions pour vous protéger, hein, et pour, il n'est pas question d'enfermer cette dame, mais en tout cas de la mettre à l'abri d'elle-même, parce que c'est un danger pour elle-même, si elle a un fusil, si elle vit dans des conditions comme celle-là.
Tout à fait.
Bon, le fait que ça ne bouge pas, pourquoi ne pas avoir envisagé de vous en aller sans crier gare, parce que ce bail, il faut le dénoncer et puis partir.
Oui.
Alors pourquoi?
Oui. Alors j'ai commencé à mes recherches parce que je voulais absolument, pardon, hein, je peux paraître exigeante, mais ça sentait le vécu, je voulais absolument trouver une petite maison sans mitoyenneté. Or ici c'est très difficile, il faut sortir de la ville et je ne peux pas conduire. J'ai eu un grave accident, je ne conduis pas. Et donc j'ai commencé à chercher tout en avec une année avec la réforme assez chargée dans mon travail. Et donc j'ai commencé mes recherches, etc. Et de l'autre côté, la rupture était totale avec les propriétaires. Puisque là, je les ai mis devant le fait accompli, puisque j'ai su par la police, ils m'ont amené le document cadastral me stipulant que la personne qui vit derrière avait parfaitement le droit de devenir devant sur la rambarde et même devant ma fenêtre, puisque ça lui appartenait, chose qu'il m'avait masquée. Et en effet, il y a bien des bornes de géomètre qu'il avait planquées sous des plantes. Et donc, il s'avère qu'elle a le droit d'être devant, puisqu'elle a vendu la maison, une partie devant, mais pas la rambarde, une partie qui est devant. Et donc, je suis totalement enclavée chez elle. Donc la faute, en fait, ceux qui sont à l'origine de toute l'histoire, ce sont les propriétaires. Ils savaient ce que j'allais vivre. C'est ce qu'ils m'ont dit les voisins un peu plus loin. Ils m'ont dit, ils savaient parfaitement ce que vous alliez vivre. Et donc, moi, chaque fois, ils me disent, écoutez, portez plainte, prenez un avocat. Ils me disent, prenez un avocat. Ils me disent, faites des procédures. Ils me disent, vous savez, nous, on ne peut pas faire de plus. Mais je lui dis, vous saviez parfaitement ce que j'allais vivre. Donc, j'ai porté plainte pour dol locatif. Et j'ai eu le mauvais réflexe, j'aurais pas dû le faire. Je n'avais pas pris d'avocat à ce moment-là parce que je voulais garder mon argent pour déménager. Et j'ai décidé l'année dernière, pendant 3 mois, où ils sont partis, hein, ils se sont absentés 6 semaines, me laissant face à l'enfer, j'ai décidé de ne pas payer le loyer. Et je me suis dit, dès septembre, je vais demander à ce que mes loyers soient mis sous une caisse de dépôt et consignation. Voilà. Et au retour, ils m'ont immédiatement fait une procédure, une demande d'expulsion, prétextant que d'une, je n'avais pas payé le loyer. Ça, c'est vrai, pendant 3 mois, j'avais mis le loyer de côté et je n'avais pas encore fait la démarche. Et que j'étais à l'origine des problèmes avec la voisine derrière. Or, je ne savais absolument pas ce qui m'attendait. Alors là, ça a été l'enfer. J'ai pris un avocat assez réputé. Ça a été une catastrophe. Voilà. Le confinement a repoussé beaucoup de choses. J'ai déposé plainte pour manquement grave aux obligations du bailleur. Je précise aussi que je n'ai aucune quittance depuis le début. Qui est illégal. Je n'ai aucune quittance depuis le début. Je n'ai plus d'adresse postale. Il me manque 8 mètres carrés de surface habitable. Derrière, je n'ai pas de clôture. C'est un grillage à moutons. Et il rentre chez moi quand je ne suis pas là. D'ailleurs, il a été vu par une voisine. Elle me dit, je ne peux pas témoigner parce que moi, j'habite là. Et elle m'a donné les détails. D'ailleurs, en effet, il a un double de clé. Donc, il rentre chez moi quand je ne suis pas là. Il fouille mes affaires, etc. Et voilà, donc les choses ont été repoussées par le confinement. Et nous sommes allés au tribunal le 29 juin. Je m'attendais quand même à autre chose. Et le 3 août, la juge leur a donné intégralement raison, n'a reconnu ni les manquements graves aux obligations du bailleur, ni les clauses dolosives. Je trouve ça quand même, mais on marche sur la tête. On marche sur la tête.
Et vous n'avez pas l'impression de, comme on marche sur la tête, de vous acharner face à justement des gens qui n'ont visiblement pas pris l'étendue de la problématique et ça peut encore durer assez longtemps tout ça. Et j'ai quand même l'impression que si ça dure longtemps, vous pouvez vraiment y laisser des plumes. Hier soir, vous vous souvenez m'avoir dit que vous ne teniez plus à la vie.
Oui, je ne le cache pas. Oui, parce que là, je pouvais faire appel. Donc l'avocate, pour ne pas dire, honnêtement, l'avocate s'en lavait les mains, je ne vous cache pas. Elle est venue à la plaidoirie, elle n'avait rien préparé, je me suis fait laminer. Et je lui ai dit en sortant, je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez pensé de votre prestation ? Oh, mais vous savez, le juge, dans 2 mois, quand il va lire le dossier, il aura tout oublié, le juge sur pièce. Je lui ai dit, mais vous avez vu que je me suis fait laminer comme ça, je ne n'ai pas répondu aux attaques. Il y a des documents, il y a la preuve du dol locatif, il est manifestement établi. Et je lui ai dit, vous ne trouvez pas stupéfiant que le juge n'ait pas retenu ? Vous savez, c'est l'histoire de 4-5 000 balles, hein. Vous prenez autre chose en urgence si vous vous en allez. Et donc, non seulement ils ont eu gain de cause, donc là, je cherche depuis 2 mois. La semaine prochaine, je dois rendre les clés, je n'ai plus de toit. Je j'ai payé tous les frais de justice, évidemment les loyers mis de côté, tout est payé, je continue de payer. J'ai payé tous les frais de justice, c'est-à-dire 3 500 et quelques euros, et on m'en demande encore, j'ai tout payé. C'est tout l'argent que j'ai mis de côté pour mon projet, pour celle-là, pour déménager. Tout est parti. Tout, absolument tout. Là, je ne mange pas. Hein. Je ne le cache pas. Je n'ai plus d'argent. C'est la première fois cette semaine, la première fois depuis 5 ans que je m'absente de mon travail. Mon état de santé s'est dégradé. Ça ne s'entend pas trop là parce que j'ai besoin de me concentrer sur ce que je dis. Je tremble en permanence. Je revois le médecin demain. Mon corps n'est que tremblement. J'ai beaucoup de mal à dormir. Je n'arrive plus à me concentrer sur mon travail. La personne est toujours là. J'ai peur de ce qui va se passer. Voilà, j'ai enchaîné les visites, la rentrée, mon travail, la préparation, parce que je suis exigeante sur mon travail et je veux toujours vraiment bien coordonner les choses. Et ma hiérarchie est informée il y a 8 jours. Il m'a contacté hier et il m'a dit « Je ne savais pas que vous viviez ça, j'ai vu que vous n'alliez pas bien. » Mais je lui dis, je ne montre jamais rien, le travail c'est le travail, je ne monte pas à côté. Sauf que là, ça a pris des proportions hallucinantes. Donc là, je suis dans les cartons, je continue les visites, je continue de chercher, mais l'échéance arrive. Voilà, la décision de justice, ils m'ont pris tout mon argent. Et j'ai appris, il y a quelque temps, par un policier au bureau des plaintes qui m'a dit, je vais vous dire, vous savez pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'ils savent que maintenant c'est inlouable. Donc, leur projet est de vendre leur maison à côté, de vendre celle que vous occupez et de partir à Nîmes, dans le sud, chez les beaux-parents. Et voilà. Donc, en faisant ça, ils contournent la loi qui les oblige normalement à me prévenir 6 mois auparavant, etc., etc., etc. Et puis, finalement, j'ai réglé leur problème. Voilà. Et je trouve assez stupéfiant que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi le juge, il y a toutes les pièces en main, notamment le document cadastral, les preuves, etc., qu'elle n'ait pas retenu d'une des manquements aux obligations du bailleur. Je n'ai ni quittance ni boîte aux lettres, ce n'est pas normal. Et qu'elle ne retienne pas le dol locatif, parce qu'il est manifestement établi. Voilà, donc mon avocate m'a juste dit, est-ce que vous voulez faire appel ? Voilà, ça vous coûtera 3 000 et quelques, là. Je lui ai dit, on va arrêter là les frais, de toute façon, je ne peux plus. Voilà, là maintenant je dois absolument partir parce que c'est une question de survie.
Oui, et moi je pense, je vais vous dire une chose, Viviane. Il faut reprendre un petit peu, évaluer tout ce qu'on vous a fait vivre là, depuis un moment.
Oui.
Hein. Vous êtes professeur aujourd'hui, vous êtes donc fonctionnaire. Et moi, je serai à votre place, je prendrai mes clics et mes claques et je partirai. Vous pouvez trouver. Un petit studio, le temps de vous retourner, vous voyez, et un garde-meuble. Mais est-ce que c'est ça que j'ai oublié de vous demander ? Est-ce que ils vous ont demandé une caution importante ?
Un loyer. D'ailleurs, je sais que je n'en verrai pas la couleur. Ça, c'est quasiment certain.
Ça, c'est clair.
Je n'en verrai pas la couleur. Donc, je ne vous cache pas que ce mois-ci, là, c'est le dernier mois, ils n'ont pas eu le loyer. Je ne le paierai pas. Il y a eu une fuite d'eau pendant le confinement. Évidemment, comme je n'ai aucun contact avec eux. J'ai dû appeler 21 plombiers. Beaucoup avaient cessé leur activité. Hein. C'était la première semaine, vers le 15 mars du confinement. L'eau s'est coulée depuis un an, ils m'ont dit, à la cave. Je n'y vais jamais dans la cave, j'ai horreur de ça. Et donc, j'ai dû finalement, un plombier m'a proposé de venir, sans voir la fuite. Hein. Il m'a dit, vous vivez seule ? Je lui ai dit, oui. Ah, vous êtes une femme ? Je lui ai dit, écoutez, venez voir à la cave, j'ai peur que ça se dégénère. Apparemment, ça fuit depuis longtemps. Il m'a dit, écoutez, je ne me déplace pas pour moins de 700 à 1 000 euros. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Par contre, vous voyez que mon propriétaire est à côté, je n'ai pas de contact avec lui pour la facture. Il me dit, non, moi, vous ne me payez pas, je ne viens pas. Finalement, c'est un de mes meilleurs amis qui m'a fait venir quelqu'un. Bravant le confinement, je ne vous cache pas. Et qui m'a fait la réparation. Je l'ai payé. J'ai payé les pièces, beaucoup moins cher, évidemment. Il m'a réparé la fuite en attendant la fuite d'eau colossale. La facture est toujours en attente. C'est que des choses comme ça. C'est moi qui ai payé le nettoyage du tag sur le portail. 290 €, je l'ai payé. C'est le propriétaire. Je vous dis, je n'ai pas de. Là, la police, elle me dit, on ne peut pas vous contacter, vous n'avez pas de boîte aux lettres. Je lui dis, non, j'en ai plus depuis un an. Et je lui dis, voilà, elle a récupéré son adresse postale, il m'en a attribué une autre, sauf que ce n'est pas celle du bail. Mais voilà, tout ça, ce n'est pas retenu par le juge, par la juge. Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai estimé que le jugement était partial. Alors, je vais vous dire quand même quelque chose, sans rentrer dans les détails. J'ai des raisons de croire que le 29 juin, le jour de l'audience, la juge a demandé absolument ce que je sois présente. Parce qu'il y avait... J'y suis allée, j'ai perdu une journée de salaire et ma journée de carence, parce qu'à un moment, j'étais en surveillance d'examen, on m'a fait passer en dernier, parce que le dossier était soi-disant le plus lourd. Je n'ai pas une seule minute la parole, seuls les avocats ont la présence, donc pourquoi on m'a fait venir ? Et j'ai bien compris que ce n'est pas mon dossier. J'assume parfaitement ce que je dis. Ce n'est pas mon dossier qu'on a jugé. C'est mon nom. Mon nom est connu pour quelque chose ici. Et je sais, voilà. D'accord. C'est quelque chose d'assez sensible. On m'a dit quand c'est arrivé, on m'a dit, vous savez, vous avez tout intérêt à ne plus jamais mettre les pieds dans un poste de police et encore moins dans un tribunal d'Amiens. Manifestement, le temps s'est écoulé, mais les effets sont toujours là. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est ça. Toujours est-il que j'ai fait une longue plainte sur ce qui s'est passé ces derniers jours à Monsieur le procureur de la République avec une copie au garde des Sceaux. Je n'ai plus d'autre choix que de préserver ce qu'il reste des miettes de ma vie, de ma santé. Je n'ai plus de vie sociale, je n'ai plus de. Ben, mes amis, c'est pas que c'est loin, ils en ont marre.
Non, mais il faut partir, Viviane. Il faut partir.
Je ne peux plus travailler. Il ne reste que mon travail et ma détermination à vouloir survivre, ne pas leur faire plaisir, pardon de vous dire ça à l'antenne, de me supprimer, parce que c'est l'idée qui m'occupe depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Mmh. J'ai tellement supporté que la charge mentale est énorme et je me dis, en fait, ça leur ferait rien, leur vie va continuer et ils auraient tout gagné.
On va marquer une dernière pause avant de conclure. Viviane, vous restez avec moi et on se retrouve dans quelques instants. Il est 23h29, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Viviane, en conclusion, vous arrivez...
Olivier, si vous permettez, est-ce que je peux juste rajouter une dernière chose ?
Oui, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend.
Oui, je voulais juste dire que je visite encore des maisons, notamment samedi, et je suis susceptible d'en avoir une, mais pas avant 2 mois et demi. J'ai demandé à mon proviseur, parce que nous savons qu'il y a un logement de fonction libre dans l'établissement, si je pouvais, à titre provisoire, occuper, évidemment, moyennant les charges et le loyer, le logement de fonction libre, le temps de juste que la jonction. Il a fait la demande à la région. La région est quand même à la tête de la région. C'est M. Xavier Bertrand, si quelqu'un qui travaille pour lui m'entend. La réponse était négative. Ça fait 25 ans que je travaille dans cet établissement, soit la moitié de ma vie. J'ai laissé ma vie, ma santé, toute mon énergie. Je trouve que quand même, là, dans le soutien d'un personnel de l'éducation, c'est quand même fort léger.
Votre appel est entendu, en tout cas, j'espère, Viviane, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent dans la région Grand Nord aussi. Hein. Vous êtes à côté, puisque vous jouxtez Amiens. Nous ne sommes pas loin et que c'est bien évidemment M. Xavier Bertrand qui est en charge de tout ça, même s'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et que je pense que ses collaborateurs, sont à l'écoute ce soir. Souhaitons que, oui, pour une professeure qui est dans votre cas en ce moment, on souhaite que vous soyez aidés. Je vous souhaite plein de courage, en tout cas, Viviane, et puis ne manquez pas de nous tenir au courant, d'accord ?
Tout à fait. Merci pour votre écoute.
Je vous en prie.
Sans jugement. Et merci pour ce temps. Ça m'a fait beaucoup de bien.
Tant mieux.
Merci infiniment. Je vais continuer de vous écouter après en faisant les cartons. Je vais me battre. Je vais fuir parce qu'il n'y a que ça à faire.
Fuyez.
Et puis laisser les pertes matérielles ou autres. Parce que
ça,
on peut toujours se reconstruire.
C'est pas grave, ça.
Tout à fait.
Dites-vous bien, c'est pas grave. C'est pas grave, ça n'est que du matériel et la santé, je le dis souvent ici, c'est notre unique trésor à vraiment honorer, respecter et vraiment chérir. Donc portez-vous bien et faites attention à vous, Viviane. Je vous embrasse.
Je vous tiendrai informé. Merci infiniment, merci à toute votre équipe. Bonne émission, Olivier.
Au revoir, merci.